Après une rencontre qui ne s'est pas terminée comme il le souhaitait, Béa et Ben se retrouvent de manière inattendue à un mariage et font ce que deux adultes matures feraient pour sauver les apparences, faire semblant d'être le couple parfait. N'importe qui sauf toi. Une comédie à regarder dès maintenant sur Crave. 1975, fin de la guerre du Vietnam. Un capitaine de l'armée chargé des exilés aux États-Unis doit lutter pour ne pas révéler sa véritable identité. Espion du Parti communiste, Le Sympathisant, une série originale HBO, à regarder dès maintenant sur Crave.
Salut tout le monde, Stéphane Leroux qui vous souhaite la bienvenue à Sur la glace, notre web diffusion hebdomadaire, dernière de la saison. Nous sommes mardi le 16 avril au moment de l'enregistrement. J'espère que vous allez bien. Une dernière bien chargée. On va s'entretenir un petit peu plus tard avec l'entraîneur-chef et directeur général de l'Océanique de Rimouski, Serge Beausoleil. L'Océanique qui a atteint le carré d'as de la Ligue de hockey junior majeur du Québec pour la première fois depuis 2015, alors que l'Océanique avait gagné la Coupe du Président en battant les Remparts de Québec en 7 matchs. Ça fait 4 ans de ça. Et à compter de vendredi, l'Océanique devra maintenant en découdre avec les Huskies de Rouyn-Noranda, champions du calendrier régulier. On va faire le tour de ce qui se passe autant dans l'Ontario que dans l'Ouest. Hier, lundi, c'était la publication de la dernière liste de la saison de la centrale de recrutement de la Ligue nationale. Alors, on va se pencher là-dessus, bien évidemment. C'est aussi jeudi, dans 2 jours, que se met en marche le championnat du monde des moins de 18 ans. Ça a lieu en Suède cette année. Donc, on va beaucoup en parler, évidemment. Ça va être une belle occasion pour les amateurs de hockey de suivre au cours des prochains jours les meilleurs espoirs pour la séance de sélection de la Ligue nationale de 2019. Et on va aussi parler, bien sûr, d'un peu de Midget 3. C'est lundi prochain que s'amorce la Coupe TELUS à Thunder Bay en Ontario. Les cantonniers de Magog seront les représentants de la Ligue de Midget 3 du Québec. C'était également jour de bilan hier à Laval, alors que le Rocket a terminé sa saison samedi avec une victoire en prolongation. Ça se passait à Binghamton. Avant de parler avec Patrick Friolet, qui a assisté à cette rencontre de presse hier, autant avec les joueurs qu'avec l'entraîneur-chef Joël Bouchard, ben écoutons justement un commentaire là, de Joël Bouchard qui parle un peu de la dernière saison du Rocket.
Sais-tu quoi? On était pas mal chanceux. Parce que, tu sais, c'est bien beau pousser des jeunes, là, mais tu sais, quand ils n'ont pas les capacités ou quand ils sont pas capables, ben ou ils veulent pas ou ils écoutent pas, tu pousses dans le beurre. Puis la raison pour qu'on est resté très compétitif tout au long de la saison, ça a été de un, parce que c'est un buy-in. Parce que, dites-vous, mettez-vous à ma place, là, j'ai juste des jeunes en avant de moi, puis j'ai pas vraiment de gars de spare, OK? Comment je les garde? En anglais, on dit accountable, responsable. Parce que je ne sais pas comme je peux en mettre un autre, là. Fait que c'est pour ça que je dis qu'on était très chanceux, puis c'est des bons gars, puis ils méritent qu'on le dise aujourd'hui, parce que, tu sais, c'est pas comme si le joueur, exemple, fait quelque chose de pas correct ou il m'écoute pas, que si je fais après, peux-tu le mettre sur le banc? Il n'y a pas d'autre. Mais non, j'ai pas eu besoin de faire ça, parce que les gars avaient un buy-in. Fait que j'ai pas eu besoin. Des fois, un coach va utiliser la carte de « on va t'enlever le power play, on va te mettre sur le banc un peu, on va te tasser, on va te mettre dans les estrades. » Un jeune joueur dans les estrades dans la Ligue américaine, on regarde, ça arrive constamment. Je vais mettre qui dans les estrades quand? On avait des gars sur des try-outs dû à la réalité qu'on a parlé tantôt. Mais j'ai jamais eu besoin de faire ça. Tu sais, des fois, c'était le premier, des fois, tu dis « hey, pas assez bon, me refais-moi plus ça, puis tu le sais. » Puis le joueur « ah ouais, je sais, c'est beau. » Je le refaisais plus. Sinon, là, moi, j'avais les mains attachées, là, je fais quoi? Mais mon pouvoir là, de plus que ça, Alex Belzil, Xavier Ouellet, Carl Osner, c'est quoi mon pouvoir, moi, de les rendre responsables? Zéro. Puis j'ai pas eu besoin de le faire. Puis c'est ça, je vous dis comment qu'on est chanceux, comment qu'on est heureux, puis on est content d'avoir eu ces gars-là. Parce qu'on les poussait, puis les gens qui suivent l'équipe savaient que je les ai poussés là, dans les entraînements, dans les matchs. Puis jamais ils ont respecté. Jamais ils ont dit, ouais, mais là, moi, jamais. Ça n'a pas été ça partout. C'était, OK, je vais essayer d'être meilleur. Parfait, let's go. Fait qu'il n'y a pas eu de chicane, il n'y a pas eu de... Parce que c'est ça le problème des jeunes, c'est que si ils savent qu'ils jouent tout le temps, ils commencent à faire ou ils n'écoutent pas, ils ne portent pas attention. Ou... Mais tu sais, je trouve qu'ils avaient les yeux très, très ouverts. Ils écoutaient un esprit ouvert pour devenir meilleur. Vétéran, regardez un gars comme Alex à son âge, la progression qu'il a eu cette année, Alex Belzil. Fait que tu sais, c'est pour ça que, oui, on n'a pas fait les séries, puis... m'écoutez pas, là, je suis pas le gars le plus heureux de pas faire les séries. Je trouve ça tough, là, parce que les dernières années, j'ai été très chanceux, là, en tant qu'entraîneur. Mais, tabarnouche, hey, jusqu'à le dernier week-end, là, les gens qui étaient avec nous autres, là, tu sais, je pense que vous avez vu comment les gars ont réagi. Fait que c'est pour ça que c'est une réalité différente comme entraîneur, mais ça peut être à chicane entre nous et les joueurs, là, pour les faire performer, ça, c'est sûr.
Alors, ça résume un peu l'état d'esprit là, de Joël Bouchard pendant ce point de presse hier. Peut-être mentionné au niveau statistique, l'an passé, le Rocket avait gagné 24 matchs, avait terminé avec 58 points au 30e rang du classement général sur 30 équipes dans la Ligue américaine et seulement 10 victoires à la place Belle à Laval. Cette année, on est allé chercher 30 victoires, donc 6 de plus. On est allé chercher 14 points de plus au classement. On a gagné 8 matchs de plus à Laval. Mais résultat des courses, l'équipe a quand même pris le 27e rang au classement général sur 31 équipes et évidemment ne participe pas aux séries comme Joël Bouchard l'a mentionné. Mon collègue Patrick Friolet a suivi les activités du Rocket toute la saison. Il était là hier, la semaine dernière. Salut Patrick, premièrement, devrais te saluer. La semaine dernière avec Bruno, on a fait un peu le bilan parce que ça avait été notre dernier match local. Là, à la lueur de ce que tu as entendu hier, tu retiens quoi de tout ça, de tes rencontres avec les joueurs hier et du speech là, qui a quand même été, comme c'est fidèle à son habitude de Joël Bouchard, toujours assez intense. Oui. Tu retiens quoi de tout ça?
Ben, moi, je dis honnêtement, mission accomplie. Parce que oui, c'est clair qu'on a raté les séries. Ça, c'est décevant. Vous l'avez entendu de la bouche de Joël Bouchard. On aurait voulu participer aux séries. Mais en même temps, ce qu'on voulait à la base, quand on regarde avec le recul, quand Joël Bouchard a été nommé comme entraîneur-chef, on voulait établir une structure. On voulait développer des habitudes de travail, on voulait pousser les joueurs, on voulait les encadrer de la bonne façon et surtout leur montrer comment devenir des professionnels. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui étaient à leur première saison, je pense à des gars comme Jake Evans, comme Kyle Fleury, il y avait des vétérans à travers tout ça. On voulait aller chercher le maximum de ces joueurs-là et je pense qu'à ce niveau-là, Joël Bouchard a réussi sa mission d'aller chercher le maximum parce que c'est clair que on le voit de l'extérieur, on le voyait de l'intérieur aussi, il manquait de talent naturel en attaque dans cette formation-là. Et outre tout ça, ben, on a quand même été en mesure d'aller chercher le maximum, de se battre quand même pendant une bonne partie de la saison pour une place en série, alors que sur papier, on n'avait pas une équipe qui était faite pour aller loin, parce qu'il y avait plusieurs joueurs, comme je l'ai dit, qui manquaient un peu de millage. C'est une expression que Joël a utilisée beaucoup pendant la saison. Mais Joël était extrêmement fier de ce groupe-là, qui a tout donné pendant toute la saison. Et c'est clair qu'il y a de la déception. Il y a des joueurs à qui j'ai parlé, comme Alexandre Grenier, qui aurait voulu avoir une meilleure saison, qui a connu une saison en deçà de ses attentes. Hunter Shinkarok, un vétéran qui aurait dû nous en donner plus. Devant le filet, on a des gardiens qui n'ont pas nécessairement fait le travail avec, je pense notamment à Charlie Lindgren, qui s'est battu avec la rondelle pendant la majeure partie de la saison. On a eu Connor Lacouvé qui a eu des bons moments quand il s'est présenté à Laval, et McNiven, des hauts et des bas. Bref, un manque de constance globale. Mais le maximum qui a été tiré par ce groupe-là, et moi je pense que pour l'avenir, c'est très encourageant parce que là, la majorité de ces jeunes joueurs-là vont revenir l'an prochain, vont savoir ce que ça représente d'être un professionnel et les sacrifices que ça représente jour après jour et ne vont que progresser et montrer la voie à suivre pour tous les autres qui vont arriver par la suite.
Patrick, on en parle justement de l'avenir. Quand on fait le tour un petit peu, là, j'espère que je me suis pas trompé, là. Il y a 6 attaquants, en principe, qui sont encore sous contrat avec le Rocket pour l'an prochain. Verbeek, Pezzetta, Alain, Wakehead, Veidemo et Evans. Moi, je m'attends, je sais pas si tu es d'accord, de voir peut-être un Pekka qui est à Montréal se retrouver peut-être à Laval l'an prochain. Je pense que pour un Nicolas Deslauriers, ça va être difficile peut-être à Montréal l'an prochain oui. aussi. On rentre probablement là un Suzuki et un Paling, peut-être les deux, dépendamment de ce qui va se donner. Alors, à l'attaque l'an prochain, qu'est-ce qu'on fait avec des Odette, des McCarron, des Shinkarok, des Belzil? Est-ce qu'on leur redonne de nouveaux contrats?
Moi, personnellement, le Belzil, pour moi, c'est un incontournable, simplement pour ce qu'il représente. Parce que, rappelez-vous ce que Joël a dit quand il a été embauché. Moi, j'ai tout connu dans le hockey, je sais ce que les gars ont vécu. Mais c'est un peu la même chose pour Alex Belzil. Pour lui, c'était une première occasion d'avoir vraiment une saison complète dans la Ligue américaine. Et il a saisi son opportunité haut la main. Et je pense que, justement, pour ce qu'il représente, il pourrait être un très bel exemple pour tous les autres joueurs dans le vestiaire. Et sur la patinoire, il a progressé. Il y a d'autres joueurs comme Alexandre Grenier. Moi, je pense aussi que ça peut être un vétéran qui a démontré de bonnes choses. Il a envie d'être de retour. Et il y a, même si les statistiques n'ont pas été à la hauteur, il a quand même progressé, il a compris des choses au cours de l'année et il a subi quand même une blessure importante à la bouche en fin de saison, mais lui aimerait beaucoup être de retour et je pense que c'est deux gars qui pourraient vraiment bien servir la cause de l'équipe l'an prochain à travers tout ça. Mais évidemment, ce qui reste, c'est que si on ajoute ces talents-là à l'attaque, qu'est-ce qui arrive s'ils sont rappelés? Parce que là, en cours de saison, ce qui a fait mal aussi, qu'il faut pas oublier, c'est qu'on a perdu des gars au balotage qui auraient vraiment rendu de gros services à cette formation-là à Laval. On pense à Agostino qui a été échangé, on pense à Michael Chaput, on pense à Delarose, Sherbach, des joueurs qu'on a perdus et qui auraient pu vraiment aider le top 6 en attaque. Et là, on s'est retrouvé avec un top 6 avec plein de joueurs qui, en début de saison, étaient dans la Ligue de la Côte.
OK. McCarron, oui ou non? En un mot.
Moi, je dis oui.
Shinkarak?
Non.
Odette?
Oui.
OK. Bon, ça fait le portrait un peu pour l'attaque. En défensive, il y a quatre gars qui sont toujours sous contrat. Évidemment, j'ai inclus Carl Alsner là-dedans. Là, on ne sait pas ce qui va se passer avec lui, là, évidemment, parce que c'est un lourd contrat. Mais bon, Maxime Lamarche a toujours un an. Tu as Josh Brooke qui a signé pour 3 ans et Fleury qui a 2 ans. Donc, ces quatre-là, en principe, devraient être là. Là, il y a un Tizka qui va frapper à la porte l'an prochain. Et là, ça nous laisse les autres qu'on a vus durant l'année. Learnout, Olofsson. Est-ce que ces bonhommes-là seront de retour l'an prochain? Colkin?
Dans le cas d'Olofsson, je pense que oui, parce qu'on ne l'a pas vu. Et je pense qu'on devrait le ramener. Brett Learnout, j'ai des doutes, honnêtement, parce que c'est un joueur qui est dans l'organisation depuis quelques années. On sait ce qu'il peut donner. Est-ce qu'il y a... J'ai parlé un peu à Joël hier de la fameuse étiquette qu'on appose à des joueurs et qui peut être difficile à défaire en cours de route. Je pense que Brett Learnout est peut-être rendu là. Je ne sais pas s'il va vous souhaiter un nouveau départ dans une autre organisation. Et j'ai dit oui pour Daniel Odette, mais j'ai l'impression que lui veut une véritable chance et que c'est peut-être sous
peut-être
d'autres
qui veulent l'avoir. Oui, Sklenishka, on a oublié Sklenishka.
Oui, Sklenishka, un qui a très bien progressé et que je pense que Joël Bouchard aimerait ramener l'an prochain.
Parce qu'il faut pas oublier, à la ligne bleue, le Rocket a perdu Olofsson. On en a parlé en début de saison. On a parlé également le départ de Kulak vers Montréal.
Oui.
Xavier Ouellet, je l'ai pas inclus là-dedans. Il n'y a plus de contrat. Lui, il aimerait probablement aller sur d'autres cieux pour être assuré d'avoir une meilleure chance de jouer dans la Ligue nationale. Devant le filet, rapidement, on a 3 gardiens sous contrat. Lindgren, Primo et McNiven. Le plan, c'était au départ de voir Lindgren à Montréal avec Price l'an prochain, mais je suis pas convaincu, moi, de ce que Lindgren nous a montré en cette saison, qu'il est prêt à faire ce travail-là dans la Ligue nationale l'an prochain?
Non, c'en est un qui n'a pas confirmé les choses dans la Ligue américaine. Il y avait l'occasion cette année de confirmer, de mettre vraiment une base solide pour qu'on puisse avoir un avenir prometteur, mais là, on a des doutes. Et dans le cas de McNiven, je pense qu'il est rendu à prendre plus de responsabilités l'an prochain. Et avec Caden Primo, mais ça peut faire quelque chose d'intéressant devant le filet. Mais ça, le gros point d'interrogation, évidemment, demeure Charlie Lindgren.
Ouais, bien hâte de voir ce qui va se passer avec ça cet été. Ben écoute, Patrick, merci beaucoup d'avoir pris le temps de discuter avec nous aujourd'hui. Ça clôt un peu notre chapitre du Rocket de Laval. On espère que l'aventure va se poursuivre avec RDS l'an prochain à la présentation des matchs. Je pense que ça va devenir intéressant. Là, des bonhommes comme Suzuki vont s'amener. Moi, j'ai l'impression qu'il va commencer à Laval. Ryan Poehling, bon, il a beau avoir marqué 3 buts là, son premier match, qui était le dernier dans la Ligue nationale. Peut-être qu'on va le voir éventuellement jouer des matchs avec le Rocket l'an prochain aussi, si ça ne fonctionne pas à Montréal. Alors, je pense que le Rocket va tourner le coin un peu l'an prochain. Là.
Oui, je m'attends vraiment à une saison très intéressante et j'ai déjà très hâte de participer à la diffusion des matchs.
Merci Patrick, salut.
Merci, à bientôt.
Voilà, Patrick Friolet, donc, pour le Rocket de Laval. Peut-être mentionner en terminant qu'en la fin de saison, les Monsters de Cleveland ont coiffé les Sénateurs de Belleville pour le 4e et dernier rang qui a donné accès aux séries dans la section nord de la Ligue américaine. Donc, Syracuse jouera contre Cleveland en première ronde, Rochester contre Toronto, série 3 de 5 qui vont commencer vendredi. Dans l'autre section, Charlotte va jouer contre Providence et Bridgeport contre Hershey. Charlotte, c'est la grosse équipe dans la Ligue américaine cette année, 51 victoires. D'ailleurs, Mike Vellucci, l'entraîneur-chef des Checkers de Charlotte, a été nommé entraîneur par excellence dans la Ligue américaine. Peut-être un bon mot également sur notre Québécois avec le Crunch de Syracuse, Alex Barry-Boulet, qui termine la saison avec 34 buts en 74 matchs. Ça a été sans conteste la meilleure recrue dans la Ligue américaine cette année. Barry Boulet qui a terminé avec 68 points. C'est Carter Verraghy qui a remporté le championnat des pointeurs de la Ligue américaine. Lui aussi s'aligne avec le Crunch. 82 points en 76 matchs. On va maintenant parler de hockey junior. La Ligue de hockey junior majeur du Québec est un peu en trêve cette semaine. Pourquoi? Parce que les quatre équipes qui ont accédé au carré d'as ont réglé ça rapidement en 4 et 5 matchs. Les Huskies de Rouyn-Noranda ont eu besoin de 4 matchs pour venir à bout des Tigres de Victoriaville. Même chose pour les Moussets d'Halifax qui ont fait le coup en 4 contre les Wildcats de Moncton. Dans le cas de l'Océanique de Rimouski, les Voltigeurs de Drummondville, ils ont eu besoin de 5 matchs. L'Océanique pour éliminer les Screaming Eagles du Cap-Breton et les Voltigeurs de Drummondville ont eu besoin de 5 matchs pour venir à bout du Phoenix de Sherbrooke. J'étais là vendredi passé à Drummondville. Quel match, quelle prolongation. Personnellement, moi, ça fait plus près de 30 ans là, que j'ai la chance de couvrir des matchs de hockey junior à RDS. C'était la première fois que je voyais deux buts, comme on dit, annulés en prolongation. Les Voltigeurs ont marqué à 2 reprises. Les 2 fois, on a renversé le but aux vidéos. Une fois pour un hors-jeu, une fois pour une obstruction sur le gardien. Finalement, les Voltigeurs l'ont quand même emporté en deuxième prolongation, ce qui a donné lieu à un extrait d'entrevue savoureux de Maxime Comtois après le match qui nous a dit « C'est la première fois que je gagne un match en prolongation 5-2. » Effectivement, ça n'arrive pas souvent. Les demi-finales vont commencer vendredi. Rouyn-Noranda va recevoir l'Océanique de Rimouski et les Voltigeurs vont recevoir les Moussets d'Halifax. Pour parler un peu de cette troisième ronde, on rejoint dans le Bas-Saint-Laurent Serge Beausoleil, entraîneur-chef et directeur général de l'Océanique. Serge, bienvenue à notre émission.
Salut Stéphane.
Salut. Écoute, maintenant que le carré d'as est atteint pour l'Océanique de Rimouski, c'est déjà la moitié du chemin de fait. Je sais qu'on veut pas s'arrêter là. Sauf que là, les Huskies se dressent devant vous. Vous avez pas réussi à les battre cette année. 4 victoires en 4 matchs pour les Huskies. Tu approches cette série-là comment?
Alors, on n'est pas que l'autre côté de sa meilleure équipe au Canada, qui ont marqué 320 buts cette année, qui ont pratiquement 60 victoires. C'est assez évident. En même temps, on est une équipe qui est de plus en plus soudée. On est prêt à compétitionner. Puis c'est là-dessus qu'on axe nos interventions.
J'étais ce matin en train de travailler ma petite chronique pour les prédictions en vue de la prochaine ronde. Et je parlais d'un duel peut-être entre les deux meilleurs gardiens du circuit, Samuel Harvey et Colton Ellis. Est-ce que tu es un peu d'accord avec ça?
Ben écoute, je peux parler de ce que je sais. Moi, je sais que Colton est un gars qui a enlevé son jeu d'un cran, qui joue avec beaucoup de flegme, il est très, très calme devant le filet, il compétitionne, et puis je connais moins Harvey, là, je l'ai pas côtoyé.
OK. Quand tu as joué contre les Huskies cette année, il y a eu 2 matchs à Rimouski en tout début de saison. Évidemment, c'était pas les mêmes équipes que là présentement parce que la période des transactions était pas encore passée. Vous êtes retourné à Rouyn dans votre fameux voyage annuel en Abitibi où vous jouez 4 matchs en 5 jours et vous avez fini à Rouyn-Noranda. Quelle importance, qu'est-ce que tu as vu des Huskies dans ces 4 matchs-là, mais peut-être plus dans les 2 derniers là, pour t'ajuster pour la prochaine ronde?
Ben écoute, c'est une équipe qui a pas de faiblesse, là, qui, tu l'as dit, elle a bougé aux transactions, là, Mario est allé chercher les pièces les plus en vue de l'encan, là, pour il fallait, quand on rentre un gars comme Teasdale, qui était l'attaquant, le plus en vue, le plus onéreux à aller chercher, puis qu'on rentre Dobson aussi, c'est qu'on y va pour le All-In, puis moi je pense que c'est 2 pièces maîtresses qui viennent bonifier déjà une équipe qui est incroyable. Donc, de notre côté, on a vu qu'on était capable de jouer avec eux. Il faut se tenir loin du banc de pénalité. Il faut pas leur laisser de marge de manœuvre. Ils ont énormément de talent à toutes les positions.
Non, 42% en avantage numérique là, depuis le début des séries. Effectivement, c'est un point important. Vous êtes les négligés dans cette série-là. Tout le monde parle de l'Océanique pour l'an prochain. On se dit, l'an prochain, Lafrenière va avoir 18 ans. Ça va être sa dernière année. Zavgorodny va être à maturité. Ellis, tout ça. Mais l'importance de l'expérience cette année. Puis je dis pas que vous gagnerez pas contre l'Océanique, contre les Huskies, là, mais au moins c'est important là, de faire ce bout de chemin-là pour vous autres cette année pour donner du millage aux jeunes.
Ben, j'en veux pas à ceux qui lisent la réalité. C'est exactement ce qu'elle est, moi, te le dis. De notre côté, chaque match qu'on joue, écoute, quand on a commencé contre Chicoutimi, on a fait un tour de chambre, puis on avait des gars comme Christopher Innes, qui joue sur notre premier pairing à la défense avec Charles-Édouard Dastou. Il y avait en tout et partout 2 matchs de séries éliminatoires d'expérience. Puis on a fait le tour, là, des gars comme Martineau en avait pas, Charlda en avait pas, plus de la moitié de notre brigade avait pas de match d'expérience. Donc tu vois que pour nous, chaque match qu'on joue, ça nous fait progresser, puis c'est un peu vers là qu'on s'en va avec l'équipe.
OK. Vous allez à Rouyn-Noranda pour les deux premiers matchs. Le but, c'est, on se dit toujours, quand on commence sur la route dans une série comme ça, d'aller en chercher un. J'imagine que c'est comme ça qu'on approche. Là, on pense au premier match, puis on se dit qu'il faut aller chercher cette première victoire-là pour essayer de créer un doute, peut-être, dans la tête des Huskies.
Je vais même pas aussi loin. Je t'avouerai que nous autres, on veut aller là puis essayer de jouer le meilleur hockey possible de la première présence jusqu'à la dernière. Le résultat, on verra à la fin. C'est sûr que l'objectif, c'est toujours de gagner des matchs. Ça me semble assez évident. D'autre part, on sait que la tâche s'annonce lourde et énorme, puis c'est à nous autres de jouer du hockey inspiré.
Lafrenière, Huntington, Garneau, c'est une unité qui a bien cliqué ensemble. Ils n'ont pas joué ensemble toute la saison, toutefois. T'es réunis dernièrement. Est-ce qu'il y a une idée derrière ça?
Ils ont joué la plupart. Je te dirais qu'après le mois d'octobre, là, ils ont été, dès novembre, ils ont été vraiment très régulièrement ensemble. Là. On va apporter des petites modifications des fois, mais dans l'ensemble, c'est notre trio qui est vraiment la locomotive offensive du club.
44 points en 9 matchs, il roule à plein régime. Là. C'est évident que pour toi, ça va être difficile à Rouyn-Noranda de soustraire Noah Dobson de ces trois bonhommes-là. Là.
Ah, je l'essayerai même pas. Regarde, il faut que les gars après à jouer contre les meilleurs, c'est à eux autres à trouver les solutions aux situations. Hein. Puis c'est des bons joueurs d'hockey, c'est des gars qui compétitionnent, mais on les aime beaucoup. C'est à eux à trouver les solutions là-dedans.
Si je dis les Huskies en 6, est-ce que c'est correct?
Ah, je vais te laisser faire tes prédictions. Moi, je n'hésite pas à perdre la série. On essaie de gagner tout le temps.
Ben
de l'autre
oui.
côté, ils vont faire la même chose.
Mais honnêtement,
on sait qu'ils vont être avantagés par les preneurs au league.
Vous avez fait ça rapidement dans les deux premières rondes. On s'attendait à une longue série contre Chicoutimi, contre le Cap-Breton. Finalement, vous avez réglé ça quoi en 9 matchs. Vous êtes l'équipe qui a joué le moins de matchs depuis le début. Là. Vous êtes reposé.
Honnêtement, Steph, ça indique pas l'allure des séries. C'est que des matchs ultra physiques à l'arraché. Les deux, Chicoutimi, tu sais comment ils sont structurés. Ouais. Difficile à contrer. Il y avait une série de 8-2 en finissant 7 victoires consécutives. Schenk avait 12 matchs de gagner consécutivement. Ouais. On avait gagné seulement 2 fois sur 6. C'était vraiment pas de la tarte. Puis contre Cap-Breton, c'est une équipe aussi qui est au même niveau que nous autres au niveau du développement, puis qui avait pesé sur l'accélérateur. Il n'y avait pas d'espace à la glace. C'était des matchs à l'arraché tout le temps.
Bien, Serge, on va vous souhaiter bonne chance pour cette série contre les Huskies. Que le meilleur l'emporte, puis servez-vous des motivations. Servez-vous de tout ce que les pseudo-experts disent et usez ça à bon escient, comme je dirais.
On va tout faire ce qu'on est capable.
Merci, Serge Beausoleil, entraîneur-chef. Merci, Serge. Serge Beausoleil, entraîneur-chef et directeur général de l'Océanique de Rimouski, qui, à compter de vendredi, va se mesurer à la meilleure équipe là, au hockey junior canadien cette année, les Huskies de Rouyn-Noranda. Dans l'autre série, les Moussets d'Halifax vont affronter les Voltigeurs de Drummondville. D'ailleurs, en ligne au rds.ca, vous pouvez trouver mon analyse et les prédictions en vue de cette ronde. Je l'ai un peu dit avec Serge, j'ai choisi les Huskies en 6 et je choisis les Voltigeurs de Drummondville en 7 matchs. Drummondville-Halifax, là, c'est les deux équipes dans la Ligue junior majeure du Québec qui misent sur le plus de joueurs qui appartiennent à des équipes de la Ligue nationale. Il y a 14 joueurs au total dans cette série-là qui sont déjà repêchés par des équipes. Il y en a 8 du côté d'Halifax, 6 du côté de Drummondville. C'est une série qui va mettre en vedette d'un côté Maxime Comtois, de l'autre Antoine Morin, les deux grands chums là, qui ont grandi ensemble, qui ont tous les deux été repêchés par les Ducks d'Anaheim et qui s'affrontent pour une deuxième année de suite en demi-finale avec des équipes différentes. L'an passé, Comtois jouait pour Victoriaville, avait affronté Morant pour Batters, et c'est le Titan et Morant qui avaient eu le dessus. Alors, Comtois nous a dit vendredi qu'il comptait bien renverser la vapeur cette année. C'est une série qui va mettre également un petit peu de piquant dans le sens où Steve Hartley, l'entraîneur-chef des Voltigeurs, a fait ses débuts dans le circuit avec les Moussets d'Halifax comme entraîneur adjoint. Il a gagné la Coupe Memorial comme entraîneur adjoint avec les Moussets aux côtés de Dominique Ducharme en 2013 également. Et faut-il rappeler, ça c'est très important, si Halifax parvient à battre Drummondville dans cette série-là, et c'est tout à fait plausible et possible, ben le gagnant de la série entre les Huskies et l'Océanique va être qualifié d'office à la Coupe Memorial, parce qu'on sait qu'Halifax est l'équipe au test cette année de la Coupe Memorial. Alors si Halifax gagne, le gagnant de l'autre demi-finale s'en va directement à la Coupe Memorial aussi, donc c'est un élément important. Si toutefois Drummondville gagne, ben là on devra attendre le champion de la Coupe du Président pour savoir qui sera l'autre équipe mise à part Halifax qui sera à la Coupe Memorial. Ce qui est important aussi de noter du côté de Drummondville, c'est l'état de santé du gardien Olivier Rodrigue. Il n'a pas joué au cours des 15 derniers matchs. Il s'est blessé, en fait, là, quelques matchs avant la fin de la saison. 5 matchs avant la fin de la saison. Ça s'est passé le 6 mars lors d'un match contre Bécomo. Et depuis, les 5 derniers matchs de la saison et les 10 matchs en série, c'est le gardien Anthony Moroney qui est devant le filet pour Drummondville. Et il a une fiche de 12-3. Il va très bien. Sauf qu'éventuellement, il va falloir qu'on ramène du côté des Voltigeurs Olivier Rodrigue devant le filet. Et là, la question, c'est lorsqu'on le ramène, ça fait 6 semaines qu'il n'a pas joué, dans quel état sera-t-il? Ça, c'est pas évident. Et on le sait que dans les séries, ça va vite. Tu peux pas te permettre d'avoir une ou deux mauvaises performances parce que ça peut mettre ton équipe dans le trouble. Alors, ça va être un dossier à suivre. Quand il s'est blessé, le 6 mars, on parlait d'une absence de 7 à 10 jours dans le cas de Rodrigue. On est rendu à 6 semaines demain mercredi. Alors, ça commence à être long là, comme absence dans le cas d'Olivier Rodrigue, qui est un espoir des Oilers d'Edmonton. Dans la Ligue de l'Ontario, on connaît 3 des 4 demi-finalistes. D'une part, on aura les 67 d'Ottawa. Ça, c'est la seule équipe depuis le début des séries éliminatoires qui n'a toujours pas perdu. 8 victoires et aucune défaite, qui va se mesurer aux Generals d'Oshawa. Ça, c'est dans l'Association de l'Est. Dans l'Association de l'Ouest, le Spirit de Saginaw, première fois de son histoire, va participer au Carré d'As. Le Spirit qui en est à une 17e saison dans la Ligue junior de l'Ontario. Et là, on va attendre le fameux match numéro 7 ce soir. Et ça, c'est une surprise parce que les Knights de London avaient pris les devants 3-0 dans leur série contre le Storm de Guelph. On pensait Guelph éliminé, mais le Storm a ressuscité, a gagné le match numéro 4, le match numéro 5 et le match numéro 6 pour créer l'égalité 3-3 dans la série. Donc, ce soir à London, au Budweiser Center, match numéro 7. Le gagnant s'en va contre Saginaw en demi-finale. Le perdant s'en va en vacances. Est-ce que Guelph va parvenir pour une 4e fois de suite à renverser les puissants Knights de London? Dans cette séquence de 3 victoires pour le Storm, l'espoir du Canadien Nick Suzuki a récolté 8 points en 3 matchs. Il va très bien par le temps qui court. Quand on jette un coup d'œil là, au meilleur pointeur des séries éliminatoires dans la Ligue de l'Ontario, il a 17 points en 10 matchs au 3e rang des meilleurs pointeurs en série en Ontario. Alors ce soir, Guelph et Nick Suzuki contre London. Le gagnant s'en va en demi-finale contre le Spirit de Saginaw. Dans l'Ouest, on connaît également le Carré d'As. Dans l'Association de l'Est, ce seront les Oil Kings d'Edmonton contre les Raiders de Prince Albert. Prince Albert qui a été la meilleure équipe dans la Ligue de l'Ouest cette saison avec 112 points. Et de l'autre côté, les Giants de Vancouver vont se mesurer aux Chiefs de Spokane. Spokane qui a causé une certaine surprise en éliminant Everett en quart de finale. Donc Spokane qui atteint la ronde demi-finale contre Vancouver. Dans le cas de Prince Albert contre Edmonton, Prince Albert n'a pas gagné de championnat dans la Ligue de l'Ouest depuis 1985, n'a d'ailleurs pas participé à la finale de la Ligue de l'Ouest depuis 1985. Cette année-là, les Raiders, dirigés par Terry Simpson, avaient gagné la Coupe Memorial en grande finale. Ça s'était déroulé à Drummondville, où on avait vaincu les Cataractes de Shawinigan, dirigés par Ron Lapointe. Je le disais en début d'émission, c'est hier que la centrale de recrutement de la Ligue nationale a publié sa liste finale des meilleurs espoirs en vue de la séance de sélection de la Ligue nationale qui aura lieu en juin prochain. Petite parenthèse, j'avais demandé en entrevue aujourd'hui à pouvoir discuter lors de notre balado-diffusion le recruteur au Québec pour la centrale de recrutement de la Ligue nationale, Pierre Cholette, qui est un ancien recruteur-chef des Voltigeurs de Drummondville et qui travaille pour la centrale de recrutement de la Ligue nationale depuis cette année. C'est sa première saison. Alors, c'est lui qui élabore cette liste-là pour particulièrement les espoirs du Québec. Mais du côté de la Ligue nationale, on a refusé en disant que les recruteurs régionaux n'accordaient pas d'entrevue pour parler de la liste des meilleurs espoirs. Alors, c'est bien dommage. J'aurais bien aimé discuter de ça avec lui un petit peu. Partie remise, sans doute. Donc, si on revient à cette liste en Amérique du Nord, pas de surprise, Jack Hughes vient au premier rang devant Bowen Byram, le défenseur des Giants de Vancouver, et Kirby Dack, l'attaquant des Blades de Saskatoon. Ça, c'est pour la liste en Amérique du Nord. Chez les gardiens de but, Spencer Knight, du programme américain des moins de 18 ans, est au premier rang du côté des gardiens en Amérique du Nord. Si on se propulse du côté des Européens. Pas de surprise non plus. Capo Kako du TPS Turku de la Finlande est premier sur la liste devant Vasily Podkolzin, le Russe, et Victor Soderstrom, le Suédois. Et le meilleur gardien de but en Europe, c'est le gardien russe également qui a été désigné là, comme meilleur espoir, Piotr Kochekov. Du côté des espoirs de la Ligue junior majeure du Québec, On en retrouve 4 classés dans la première ronde. Raphaël Lavoie des Moussettes d'Halifax est au 20e rang. Samuel Poulain est au 22e rang. Jacob Pelletier des Wildcats de Moncton au 27e rang. Et Nikita Alexandrov des Islanders de Charlottetown au 29e rang. Dans le cas de Lavoie, il a perdu 7 places depuis la liste du mois de janvier. Il est donc tombé du 13e au 20e rang. Dans le cas de Poulain, il a monté de 5 places du 27e au 22e rang. Jacob Pelletier a perdu 7 places du 20e au 27e rang. Et dans le cas d'Alexandrov, lui, il était en deuxième ronde, 45e. Il est monté au 29e rang. Chez les gardiens de but, on parlait de Colton Ellis tantôt avec Serge Beausoleil. Il est le meilleur gardien de la LHJMQ sur cette liste au 8e rang en Amérique du Nord. Le seul autre portier identifié par la centrale de recrutement est Jonathan Lemieux des Foreurs de Val-d'Or au 20e rang. Parmi les autres Québécois signalés en deuxième ronde, Samuel Bolduc de l'Armada au 42e rang, Alexandre Campbell des Grizzlies de Victoria de la Ligue de la Colombie-Britannique, qui est un Québécois, est classé au 43e rang, Nathan Légaré du Drakkar au 54e rang, Maxence Guénette des Foreurs de Val-d'Or au 57e rang, et également 2 autres joueurs en deuxième ronde de la LHJMQ, le Russe Artemi Niazev, 41e, et le défenseur Jordan Spence, originaire des Maritimes, 59e. Donc, c'est la liste finale. Ça ne changera plus. Moi, je trouve ça dommage et c'était une des questions que j'aurais voulu aborder là avec Pierre Cholette. Pourquoi on publie cette liste avant le Mondial des moins de 18 ans qui commence jeudi, alors qu'on sait très bien que dans ce tournoi-là, le championnat du monde des moins de 18 ans, il y a plein de choses qui peuvent se passer. On l'a vu l'an dernier avec Jesperi Kotkaniemi qui a gagné beaucoup de points pendant ce tournoi-là. Et la liste était déjà finale, donc on n'a pas changé rien sur la liste. Je trouve ça un peu... Je me pose la question pourquoi on n'attend pas, exemple, au début du mois de mai pour publier la liste finale au terme de ce tournoi-là. Qu'on n'attende pas la Coupe Memorial, je peux comprendre. Il n'y a pas beaucoup d'espoir habituellement qui joue dans la Coupe Memorial. Pourquoi? Parce que les équipes qui participent à la Coupe Memorial sont généralement des équipes qui misent sur des joueurs qui sont déjà repêchés. Qu'on n'attende pas le Mondial des moins de 18 ans, pour moi, c'est un peu un non-sens. C'est pas la première fois que je le dis, mais bon, la Ligue nationale fonctionne de cette façon. Le Mondial des moins de 18 ans, j'en parlais, commence jeudi. RDS vous présentera à compter de jeudi 13h30 12 matchs de ce championnat mondial. On aura les 4 matchs préliminaires du Canada, les 2 derniers matchs préliminaires des États-Unis. Donc, pour 6 matchs de la ronde préliminaire, les 2 quarts de finale qui vont impliquer Canada et États-Unis, 2 demi-finales et 2 finales, évidemment. Donc, 12 matchs sur nos ondes à compter de jeudi. J'aurai l'occasion donc de décrire ces matchs-là. Et c'est intéressant parce que je suis dans ma préparation en ce moment. Là, il y a une vingtaine de joueurs classés en première ronde qui vont jouer dans ce tournoi-là. Alors, les gens qui veulent avoir une bonne idée, tu sais, vous savez, des fois, les amateurs regardent des séquences sur Internet et on se fait une idée sur un joueur là, parce qu'on l'a vu réussir un but de toute beauté pendant 30 secondes sur YouTube. Mais si on veut vraiment avoir une bonne idée, là, c'est ce tournoi qu'il faut regarder. Alors, je regarde du côté américain. Jack Hughes va être là. Il est le premier espoir. Trevor Zegras va être là. Il est 6e sur la liste. Cole Caulfield, cet attaquant de 5 pieds 7 pouces qui a marqué 58 buts cette année avec le programme américain. Et là, il est classé 8e. Matthew Boldy est là également, il est classé 9e. Spencer Knight, le gardien des Américains, va être là également. Si on s'en va du côté canadien, ben là aussi, il y a plein d'espoirs qui sont classés en première ronde. Je pense à Thomas Harley, le défenseur, 11e rang. L'attaquant Braden Tracy, 21e. Et également Kirby Dack va être là, le 3e. Samuel Poulain, 22e. Jacob Pelletier, 27e. Alex Newhook, 13e. Ryan Suzuki, le frère de Nick, va être là, 18e. Dylan Cousins, Peyton Krebs. Alors, autant du côté du Canada que des États-Unis, il y aura d'excellents espoirs à surveiller. Faut pas oublier Vassili Podkolzin de la Russie qui va être là aussi. Alors, c'est très, très intéressant à suivre à compter de jeudi. Ça donne une bonne idée, là, en vue du repêchage. Moi, je pense sincèrement là, que c'est le meilleur tournoi pour la QV là, de l'année en cours cette année. Et l'équipe canadienne va être construite à partir des joueurs éliminés là, de 48 formations de la Ligue canadienne de hockey, de quelques joueurs qui ont joué là, comme Newhook dans les rangs junior A cette année. Les espoirs, évidemment, du côté d'Halifax, de Rimouski, de Drummondville, de Rouyn-Noranda ne seront pas disponibles. Alors non, Alexis Lafrenière ne sera pas là, même s'il aurait pu participer au tournoi, comme il est toujours en course avec les Huskies, avec l'Océanique plutôt, il ne sera pas là. Même chose pour un Alex Bocage des Huskies de Rouyn-Noranda qui ne peut pas être là. Du côté d'Halifax, on aurait pu lancer des SOS prouesse à Justin Barron, qui même s'il est un espoir pour 2020, aurait pu participer au tournoi. Même chose pour un Xavier Parent, mais ces joueurs-là ne sont pas disponibles. Donc, le Canada construit son équipe à partir de 48 formations de la Ligue canadienne qui sont éliminées là, d'une chance de gagner leur championnat respectif. Donc, je lance l'invitation à nouveau. Premier match jeudi, Canada-Finlande, 13h30 sur les ondes de RDS. Et on va être là, là jusqu'au 28. Le 28 avril, c'est également la journée de la finale de la Coupe TELUS, championnat canadien midget qui va se mettre en marche lundi prochain, le 22. Les cantonniers de Magog vont quitter samedi le Québec en direction de Thunder Bay pour aller représenter la Ligue Midget 3A. Faut-il rappeler, on en a discuté la semaine dernière, je vous invite à écouter la web diffusion de la semaine dernière. On a parlé avec Félix Potvin, l'entraîneur-chef des cantonniers de Magog. C'est pas facile gagner ce tournoi-là, on parle de 7 matchs en 7 jours. Les cantonniers sont allés jusqu'en finale l'an dernier avant de perdre contre la grosse machine des Hounds de Notre-Dame. Cette année, donc, Magog retourne représenter le Québec à la suite de cette victoire en finale contre les Lions du Lac-Saint-Louis dans la Ligue Midget 3 ici au Québec. Donc, RDS va vous présenter également à 18h30 le 28 avril prochain la finale de la Coupe TELUS, en espérant évidemment que les cantonniers de Magog fassent partie du match ultime. Le Québec n'a pas gagné la Coupe TELUS, ce qui s'appelait la Coupe Air Canada auparavant, depuis 2001. La dernière équipe qui a gagné ce tournoi-là, c'est les Gouverneurs de Sainte-Foy de 2001, justement dirigé par notre invité de tantôt, Serge Beausoleil, qui était à la barre de l'équipe à l'époque et qui aujourd'hui dirige l'Océanique de Rimouski. Petite nouvelle également dans les rangs Midget 3, on a appris que notre collègue ici à RDS, Guillaume Latendresse, va effectuer un retour dans l'organisation des riverains du Collège Charlemagne, pas comme entraîneur-chef, mais plutôt comme directeur général, directeur de l'équipe et également gouverneur de la formation. Après un an de pause où il avait laissé son poste d'entraîneur, Guillaume Latendresse revient avec les riverains, mais pas derrière le banc, dans des fonctions complètement différentes de la dernière fois. Ben voilà, c'est un peu ce qui complète notre dernière balado-diffusion de la saison. Sur la glace, c'est un projet qui a été lancé l'an dernier. On a eu 24 émissions l'an dernier. On en a fait également 24 cette année. C'est devenu un rendez-vous hebdomadaire. On parle avec beaucoup d'intervenants du monde du hockey, que ce soit des entraîneurs, des joueurs, nos collègues ici à RDS qui sont mis à profusion, qui sont mis à contribution plutôt à profusion, et on trouve ça extrêmement intéressant. Alors, tous ceux qui ont participé au cours de l'année, je vous remercie évidemment du fond du cœur de nous aider à réaliser ce projet-là qui gagne en popularité de semaine en semaine. J'en entends beaucoup parler. Je tiens à remercier, entre autres, Luc Dansereau à la coordination ici à RDS. Vous le voyez avec Martin Lemay là, sur On jase à tous les jours au niveau de la web diffusion. C'est notre personne ressource, celui vers qui on se tourne pour planifier tout ça. Alors, merci beaucoup, Luc. Olivier Côté était là aujourd'hui à la technique. Je remercie également mes collaborateurs. Bon, aujourd'hui, on a eu Patrick Friolet, mais tout au long de la saison, Raphaël Doucette était là souvent. Bruno Gervais également pour nous parler du Rocket. Tous les intervenants de la Ligue de hockey junior-major du Québec, entraîneurs, dirigeants, joueurs. Cette semaine, on a parlé à Serge Beausoleil. C'est un exemple parmi tant d'autres. Alors, j'ai salué également. Merci à tout le monde en espérant que ce projet vous plaise et on espère qu'on sera de retour à compter du mois d'octobre prochain pour une troisième saison là, de Sur la glace. En mon nom personnel, au nom de toute l'équipe, merci beaucoup. Bon été et le hockey continue là, jusqu'au mois de mai avec la Coupe Memorial, le mois de juin avec la Coupe Stanley, repêchage en juin également. On prendra des vacances estivales en temps et lieu. Merci beaucoup tout le monde. Salut!